Ah, je peux vous dire que pour Pascal, ça sent déjà les vacances. Elle est en train de se booker des belles entrevues pour les prochains jours jusqu'à vendredi. Puis elle a dit, tiens, je vais me booker des hommes en uniforme.
Ah, mon Dieu.
Je vais me gâter.
Mais quelle réputation, non.
Ma blonde va être jalouse, hein.
C'est... Ouais, mais moi, l'incendie, je t'ai toujours dit ce que ça représentait, soit mon père. Fait que ça n'a pas le même effet que ben des femmes, là. Ça, c'est pas... c'est non négociable.
Exact. Alors, faut pas que ma blonde écoute ça. Elle va savoir qu'il y a des pompiers en or. Pourquoi j'ai pas été invité?
Elle m'a déjà dit, on va-tu dans une porte ouverte de caserne?
Oui.
J'ai répondu la même chose qu'à toi.
C'est ça.
C'est pas que j'y étais trop souvent, mais c'est un peu ça aussi.
Oui, c'est ça. C'est que ton père était, il est toujours pompier à ce jour. Mais je comprends un peu. On a le plaisir de recevoir des pompiers, Alexandre Lajoie, qui est officier médias et prévention, ainsi qu'Alexandre Langlois, qui est capitaine à la prévention des incendies. Très content de vous avoir en studio, messieurs. Merci d'être là.
Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir et de nous accueillir dans vos studios aujourd'hui.
On débute avec qui, là? C'est à qui je parle?
Ça peut
qui
être
a
bon.
Les
on
réponses?
Peut starter, c'est la semaine de la prévention incendie cette semaine.
Oui.
Fait que, on peut débuter avec ça, finalement.
À quoi sert cette semaine-là?
Ben, dans le fond, c'est une semaine. Là, initialement, là, c'est suite à un incendie qui est survenu en 1871 à Chicago, le grand incendie de Chicago,
ouais.
Où il y a à peu près la moitié de la ville qui avait brûlé. On parle d'un incendie qui a fait 250 morts, 100 000 sans-abri, 17 400 bâtiments incendiés. Fait que c'était majeur, là, surtout à cette époque-là, d'avoir 17 000 bâtiments dans une ville. C'était beaucoup.
Mais comment ça a commencé? Ça s'est propagé? On n'était pas prêt au niveau service incendie? Je comprends qu'on était en 1800 quelques.
Ça fait longtemps. Mais il y a plein de rumeurs. Là. La rumeur, ça serait qu'une vache aurait donné sur un coup de patte sur une lampe à l'huile.
Non.
Dans le foin, puis ça aurait déclenché l'incendie. Des fois, un incendie, ça prend pas grand-chose pour
la
pour
vache qui lève sa patte et qui tue 200 personnes. Je suis... OK.
C'est des rumeurs, là, on est en 1800.
Ben, ça se peut très bien.
Les bâtiments étaient proches. Chicago, pour ceux qui ont été, c'est la ville des vents. Là, aux États-Unis, ils ventent en tabarouette, fait que ça l'a aidé à la propagation de l'incendie. Donc, c'est là où on a eu l'idée de partir la semaine de la prévention des incendies.
Oui, exactement. Ça part de là. Et là, annuellement, ce qui se fait, avant, c'était une journée. Maintenant, on parle vraiment de semaine. Fait que l'ensemble des services incendies du Québec et même en Amérique du Nord vont faire des campagnes de sensibilisation sous différents angles pour sensibiliser finalement les gens à qu'est-ce qui est dangereux, quoi faire, quoi ne pas faire en matière d'incendie pour être en sécurité.
Mmh. Les problématiques que vous voyez en théâtre de guerre là, quand il y a des incendies, puis vous connaissez la cause, c'est quoi souvent les causes d'incendie qu'on peut avoir à Québec?
Bien, les principales causes, c'est les causes, ça peut être les causes électriques.
Ouais.
On a toujours encore, malheureusement, les articles de fumeurs, tout ce qui est éléments de cuisson dans la cuisine. Là, il y a encore vraiment beaucoup d'incendies.
Puis les causes électriques, c'est souvent causé par des gens qui n'étaient pas des experts en électricité puis ils se sont improvisés sur Wish, là?
Ça peut être ça, mais maintenant, il y a de l'électricité dans toutes les maisons, dans toutes les... Fait que ça peut... être une installation qui est installée il y a des années, puis éventuellement, il y a quelqu'un qui a mis un clou dans un fil, puis à un moment donné, ça peut débuter un incendie, comme ça peut être des gens qui s'improvisent aussi électriciens.
Puis les cigarettes, c'est encore une cause d'incendie à Québec?
Oh, ouais. C'est encore une cause...
C'est une des principales.
En 2023, c'était la principale cause d'incendie. On parle de cigarettes, on parle d'articles de fumeurs, mais aussi d'équipements à flambe nue. Fait que, une chandelle est inclue dans la statistique. Là. On parle en 2023, selon les statistiques enquêtées par le commissariat aux incendies. On aurait près de... on parle d'environ 80 incendies qui auraient pu débuter à cause d'une flamme nue ou d'un article de fumeur.
Ça n'a pas de sens.
C'est encore très, très, très présent. On continue de sensibiliser pour ça.
Les cendres, il y a plein de gens qui ignorent encore à quel point des cendres laissées, même si c'est entreposé dans un bac, c'est près de quelque chose, ça reste chaud. C'est 48 heures?
Les cendres, ça peut être jusqu'à quelques journées après, 5 jours, 5 à 7 jours. Là. Surtout les cendres de poêle à bois, là. Même de cigarettes, ça peut être ça aussi. Fait que c'est souvent des incendies qui vont débuter, pas tout le temps, là, mais fréquemment sur des galeries, dans des pots à fleurs. On ne sera pas de cachette au printemps pour les incendies causés par des articles de fumeur. C'est là que c'est le plus fréquent parce que toute la végétation est sec à ce moment-là. La verdure n'est pas reprise. Les gens fument sur le bord de la rue ou en voiture, tirent ça par la fenêtre, les mégots, et ça cause des débuts d'incendies aussi. Alors, c'est la grande période pour les incendies de cigarettes. Ouais. C'est souvent.
Les autres, ils s'en rendent pas compte. Mais, ils sont sur l'autoroute, ils tirent leurs mégots, puis toi, tu es en arrière en moto, tu le reçois dans la face. Ça m'est déjà arrivé. Hey, des statistiques intéressantes, Pascal, ça me tente que tu te prêtes au jeu. Chaque année au Québec, les incendies, c'est en moyenne. Combien de maisons qui sont endommagées chaque jour?
Chaque jour au Québec?
Oui.
Mais...
moi, j'aurais dit 5-6.
Oui, on dirait que j'irais pas plus haut qu'une vingtaine. Là.
Ce serait 13. Combien de personnes blessées chaque jour en raison des incendies? J'aurais dit à peu près une cinquantaine.
J'y serais allé qu'une vingtaine.
On est à 308 personnes blessées chaque jour.
Ben là, Alexandre, quand t'entends ça, au Québec.
C'est vos statistiques que je peux consulter là, sur ouais, ministère, effectivement, là, québec.ca.
Par un feu, peut-être qu'on met là-dedans un cuisinier ou je sais pas quoi, là, avec son
peut-être
feu
par
de cuisson.
Des brûlures, effectivement, des brûlures à la maison. Pas tout le temps répertoriées sur des interventions où les pompiers sont déployés, mais oui, des brûlures. C'est peut-être plus des statistiques qui viennent des grands brûlés. Justement, ou des organismes flammes aussi, qui, eux, vont vraiment plus répertorier ça. Là,
et les, par année, c'est 27 000 personnes évacuées. Puis un incendie sur deux, donc plus précisément 48 % des incendies, c'est dû à une distraction ou à une erreur humaine.
Ouais, mais là, avec l'évacuation des tours Bardi récemment, le 27 000, on peut comprendre là, quand tu as un incendie. Puis ça a été toute une intervention, en fait, récemment que vous avez eu à faire, le service incendie de la Ville de Québec. C'est pas toujours facile d'avoir des plans de prévention pour ce genre d'édifice-là, hein?
C'est ça, chaque bâtiment, ça dépend du bâtiment. Il y en a qui, quand c'est un édifice à bureau, il va avoir des plans de sécurité incendie, il peut avoir des gens en charge pour l'évacuation.
Ça, c'est dans la construction, au moment où on intègre des gens, le plan est déjà fait. Là. C'est quelque chose sur lequel on se penche très tôt. Là.
Ou qui doit être mis en place quand que les gens intègrent le bâtiment. Quand c'est là, on parlait de bâtiment d'habitation, ben c'est un peu chaque personne qui a la responsabilité d'évacuer le bâtiment en cas d'alarme, puis sinon, c'est à la construction que là, bien, il va avoir un système d'alarme incendie, l'éclairage de sécurité, les extincteurs portatifs, puis ensuite, le propriétaire du bâtiment, c'est de maintenir ça en fonction puis faire les inspections annuelles.
Pour vous, en tant que pompier, entre autres, quand vous voyez, mettons, tour Bardi, vous savez, dans vos logiciels, dans les plans d'intervention, votre plan, si jamais il y a évacuation à faire.
Ça, c'est le côté intervention, oui, qui peuvent faire des plans d'intervention qu'on appelle pour savoir à l'avance, bien, s'il y a un sinistre, un incendie dans ce bâtiment-là, on va avoir besoin de tant de ressources, on va positionner les camions à tel endroit, on va avoir besoin de... Il y a la clientèle aussi, ça va être telle clientèle qui peut différer là, pour l'intervention.
D'où l'importance du recensement aussi annuellement, là, savoir combien de personnes habitent dans tel logement, dans telle maison. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas, mettons, capable de sortir par eux-mêmes? Parce que tu te rappelles, on a parlé à une dame qui était prise sur son balcon, puis elle était à mobilité réduite, ça la stressait. Bien, ce recensement-là aide, veut pas, dans votre travail? Là.
Oui, mais les gens à mobilité réduite, ce qu'on va préférer, c'est que quand on arrive sur les lieux, bien, qu'eux, s'ils sont coincés vraiment dans leur logement, qu'ils le signalent au 911, comme ça, les intervenants d'urgence vont vraiment le savoir à ce moment-là. Il y a des bâtiments comme les résidences pour personnes âgées où il y a des responsables qui, eux, vont mentionner aux pompiers à leur arrivée, bon, ben dans quel logement on risque de rencontrer des gens qui sont à mobilité réduite. Alors là, on va prendre la décision. Les chefs pompiers sur place, les équipes vont prendre la décision. Bon, eh bien, est-ce qu'on fait du confinement dans le bâtiment ou est-ce qu'on va évacuer en urgence ces gens-là? Je pense, par exemple, à te parler de l'incendie autour Bardi.
Ouais.
Bon, bien, c'est ce qui a été fait initialement lors de cette intervention-là. L'incendie était peut-être au... Je crois que c'était au 6e étage. Alors, rapidement, tu sais, il n'y avait pas suffisamment de pompiers pour évacuer toutes les personnes qui étaient à mobilité réduite dans les logements du haut. Alors, il y a du confinement qui a été fait avec certaines personnes, le temps qu'on sécurise les moyens d'évacuation. Et par la suite, on a assisté ces personnes-là pour les sortir. C'est des choses qui se font fréquemment. Puis les plans d'intervention, comme vous avez mentionné, ils aident à se préparer à ça, à savoir qui sont à mobilité réduite, qui ne le sont pas. Mais souvent, c'est bien de le mentionner. S'il y a un feu chez soi puis qu'on est coincé chez soi, bon, fiez-vous pas au fait que les pompiers vont le savoir à l'arrivée, là. Signalez-le au 911, puis ils vont vous donner des indications sur quoi faire là, si
au niveau
vous
des
sortir.
Au niveau des avertisseurs de fumée, moi, j'ai deux avertisseurs de fumée chez moi. Je pense que c'est suffisant. Peut-être que vous saurez me dire si j'en ai besoin de plus. J'ai trois paliers, en fait, le rez-de-chaussée, le sous-sol, puis le premier étage. J'en ai deux. Puis là, Pascal me dit que même si j'avais pas de garage intérieur, là, j'avais besoin quand même d'un détecteur pour un autre gaz possible qui serait dans cette maison-là. C'est-tu le cas aujourd'hui? On demande à ce qu'on ait les deux?
Bien, ici, on part de la base des avertisseurs de fumée. Habituellement, c'est un par étage.
Ouais.
Donc, s'il y a un sous-sol, ça en prend un au sous-sol. Il m'en manquait un sous-sol. À l'étage.
Okay.
C'est moins... sont bons 10 ans. Fait que ça aussi, c'est à valider là, si le fonctionnement, s'ils sont encore bons ou s'ils sont passés date.
La batterie, si tu l'enlèves, Yannick, parce que ça sonne.
À chaque changement d'heure, je remplace la batterie.
Oui, mais mettons que tu as fait des toasts à brûler, puis c'est parti, puis tu étais bien fâché ce matin-là, tu enlevais la batterie. Il faut aussi que tu la remettes.
Oui, c'est souvent le cas.
Je m'étonne avec Pascal, que tu n'avais pas mentionné. Tu vois, avec Pascal, qui connaît bien ça, là, elle a été sensibilisée plus que la moyenne des gens avec son père.
Oui.
Que tu n'avais pas mentionné qu'il te fallait un troisième avertisseur de fumée chez toi.
Il y a un troisième avertisseur.
C'est un par étage.
Si tu savais le nombre de choses que j'ai dit, mais avec Yannick, c'est comme dans un vieux couple. Tu parles, mais tu n'écoutes plus. Parce que c'est souvent les mêmes affaires, comme le monoxyde de carbone. Il a fallu, j'y explique 150 fois. Inodore, incolore, ça qui va te tuer avant même le feu. Il n'y a rien à faire.
On appelle ça un filtre. Mais est-ce que ce détecteur-là est utile pour les gens qui n'ont pas de véhicule qui rentrent dans la maison?
Ben, comme on a dit, le monoxyde de carbone, c'est inodore, incolore, c'est un gaz toxique. Il est obligatoire si on a un garage attaché ou une source qui va brûler un combustible. Un poêle à bois, un foyer, une cuisinière au gaz, un chauffage à l'huile, chauffage au bois et un garage attaché qui pourrait avoir un véhicule
dans,
à l'intérieur.
Dans ces cas-là, il est obligatoire.
Exact.
Okay.
Mais il est très efficace d'abord et avant tout dans ta maison que tu n'aies pas ça. Même si tu n'as pas tout ce qu'on vient de nommer, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, on a des experts ici, mais c'est quand même ce qui va réveiller le monde si jamais il y a du monoxyde de carbone dans la maison avant même que la flamme t'ait réchauffée. Là.
C'est, pour ce qui est du feu, c'est vraiment l'avertisseur de fumée qui va venir sauver des vies puis qui va faire que si on en a un à chaque étage minimalement,
ça va te réveiller.
Qui fonctionne, qui va nous réveiller. C'est pour ça que le son est fort. Le monoxyde de carbone... je vous dirais, c'est plus... Si vous voulez en mettre un, vous pouvez, mais c'est vraiment plus lorsqu'on a une source qui peut produire du monoxyde de carbone. Sinon, c'est l'avertisseur de fumée qu'il faut qu'il fonctionne là, à tout prix.
À 100%, c'est clair ça. Puis maintenant, il se casse moins la tête. Les nouveaux, ils intègrent les deux?
Oui, il existe des modèles avec les deux là, qui sont et avertisseur de fumée et monoxyde de carbone. Ça, c'est à l'achat, on peut vraiment le valider. Il y a des petites distinctions à faire, là, c'est que le monoxyde de carbone, lui, souvent quand on a un détecteur uniquement au monoxyde de carbone, bon, ben, il peut être mis au niveau du plancher, au niveau du plafond. Le monoxyde de carbone est un gaz qui se mélange dans l'air approximativement en haut, en bas, partout en même temps, alors que la fumée, elle, c'est vraiment plus en hauteur qu'elle va aller en premier. Alors, pour la détecter, c'est pour ça que les avertisseurs de fumée sont en hauteur. Alors, si on achète un modèle qui intègre les deux détections, eh bien, à ce moment-là, il faut le mettre au plafond ou sur le mur, là, jusqu'à 12 pouces là, du plafond. Et oui, ça existe les deux. Moi, j'apporterai l'attention pour l'avertisseur de fumée sur... on parle d'avertisseur de fumée à batterie et à pile 12 volts. Là.
Ouais.
On recommanderait des avertisseurs de fumée aujourd'hui. Si c'est électrique là, dans vos maisons, vous avez des maisons récentes, ils doivent demeurer électriques. Toutefois, s'ils sont à batterie, nous, ce qu'on recommande, et même pour les propriétaires d'immeubles à logement, moi, je préconiserais les avertisseurs de fumée avec des piles au lithium qui sont bonnes pour 10 ans de temps, puis on ne peut pas enlever la pile dans l'intérieur. Fait que votre locataire, il ne pourra pas l'enlever. Il va devoir, finalement, retirer l'avertisseur de fumée s'il ne le veut pas. Et ça, souvent, les gens ont moins tendance à adopter cette pratique-là.
Quand vous avez fait votre cours pour devenir pompier, messieurs, on vous parlait des hôpitaux. Ça vous faisait-tu faire des cauchemars, ça, les hôpitaux, à grosseur que ça l'est aujourd'hui? S'il y a un incendie, il y a des opérations qui sont en train de se faire, il y a des gens qui sont dans le coma. Est-ce qu'on vous prépare très rapidement à cette éventualité-là? Puis y a-tu des plans très élaborés pour essayer d'évacuer le plus rapidement possible les hôpitaux?
Ben, les hôpitaux, si on... T'sais, tantôt, on parlait de confinement pour certains bâtiments, mais les hôpitaux, comment qu'il est bâti, ben, ça va être en béton, il va avoir des systèmes d'extinction automatique à l'eau, des gicleurs. Il y a des employés à l'intérieur aussi qui sont formés, il y a les agents de sécurité, fait qu'eux, à l'interne, ils ont des plans de sécurité incendie qui vont venir dicter le rôle de tous et de chacun. Puis sinon, pour ce qui est du côté pompier, c'est bon d'avoir des visites sur place pour voir comment que les lieux sont faits et de faire des plans d'intervention comme on a parlé tantôt. Mais sinon, le bâtiment, il est quand même conçu pour faire la compartimentation.
Okay.
Il y a des pratiques d'évacuation qui sont faites aussi, mais du côté employé par secteur pour valider si tout le monde sait son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas évacuer justement, comme on a dit... des patients pour rien.
Ouais, j'imagine la scène, tout le monde est un peu en panique sur leur situation personnelle en santé, puis on fait en plus une pratique incendie, c'est pas...
Écoute, moi j'ai été... mes deux gars sont nés à l'hôpital à Lévis, puis il y avait juste un ascenseur qui était disponible, puis l'autre était en réparation, puis je pensais juste à ça, tu sais, toi tu t'en vas, tu laisses ta conjointe là, tu t'en vas prendre ta douche chez vous, puis tu te dis, Chris, s'il y a un feu, comment ils vont faire pour tout sortir de là? Puis il y a des gars qui nous ont écrit, qui sont en service incendie, qui nous ont dit, non, on a des plans très détaillés, là, même s'il y a un ascenseur qui est problématique, on est capable quand même d'évacuer tout le monde, puis si jamais ils sont pas capables, il y a des murs coupe-feu qu'on appelle, là, c'est ce que vous m'avez dit, qui rentrent en ligne de compte, donc on n'est pas obligé de tout vider l'hôpital au grand complet. Là.
Des gens qui nous écrivent, dans les nouvelles constructions, un détecteur de fumée par chambre et un minimum de un par étage. Est-ce qu'on est rendu plus sévère parce qu'il y en a qui n'en avaient toujours pas?
Oui, puis on a comme rehaussé le niveau de sécurité. Effectivement, les nouvelles constructions, c'est le code du bâtiment qui va venir dicter et le code électrique, que ça en prend un à chaque étage, mais aussi dans chaque chambre à coucher. Ils sont électriques, ils ont une pile d'appoint à l'intérieur en cas de panne. Et tout ça interrelié ensemble. Donc, s'il y en a un dans le sous-sol qui se déclenche,
ben, ah, c'est pour ça,
toutes
ça
les quelques secondes après, tous les autres avertisseurs dans le domicile vont se déclencher pour alerter tout le monde dans la maison le plus rapidement possible.
Dans ces semaines-là de prévention, vous faites la tournée de plein de secteurs, vous entrez dans les maisons, vous cognez, là, vous ne vous présentez pas nécessairement en ayant dit « bon, ça va être la tournée du Grand-Duc dans cette rue-là ». Qu'est-ce que vous constatez que, sans dire déplorable, vous dites hey, « c'est à améliorer encore ici à Québec ».
Bien, tu sais, là, on le souligne parce que c'est la semaine de prévention incendie, mais nous, notre département, mon équipe, on fait ça à l'année longue, d'aller dans les bâtiments, d'aller dans les... Même les pompiers font la vérification d'avertisseurs de fumée l'été, en font plus de 50 000. Ça, c'est à part ce que nous, on fait pour les bâtiments là, de plus haut risque. Je vous dirais que c'est... Bien, on part de la base, c'est encore les avertisseurs de fumée là, qui ça prend justement là, au départ, puis qui sont encore soit absents, soit non fonctionnels, soit brisés, soit trop vieux. Fait qu'on cible encore vraiment l'avertisseur de fumée. On en parle depuis longtemps, mais c'est encore un problème.
Les pompiers, ça va-tu chez Dollarama acheter des multiprises?
Non.
Non.
C'est une problématique, ça, les gens qui branchent à peu près 25 affaires avec des multiprises.
Mais en même temps, t'en as besoin, tu sais, on en a, là. Mais je comprends, au Dollarama,
oui, mais c'est ça, mais tes achats, puis ils sont homologués, là.
Oui,
homologués comme sécuritaire, mais quand tu vas chez Dollarama, j'en vois des fois, je me dis,
ça, c'est un nez à feu.
C'est un risque, là.
C'est certain qu'on parlait des risques électriques tantôt, c'est un risque de plus. Nous, ce qu'on suggère quand on utilise ou qu'on doit utiliser le multiprise, c'est d'en avoir un avec un disjoncteur dessus. Un petit bouton que s'il y a une surcharge, ben le courant va couper là et non au disjoncteur.
Ça, c'est pas le on-off, là. C'est vraiment un disjoncteur, comme mettons sur les prises où tu vois dans la cuisine, là, dans les nouvelles constructions, là, dans la salle de bain. Là.
Ça, c'est un autre type de prise. Là. Ça aussi, c'est un petit disjoncteur.
Mais c'est un disjoncteur, c'est ça.
Intégré à la prise, mais oui, c'est un peu le même principe. Là. Il va avoir un bouton reset là, qui va être inscrit dessus là, pour réarmer s'il y a une surcharge.
En terminant, messieurs, bon, il reste encore quelques jours à cette semaine de prévention des incendies. Est-ce que vous faites des activités à Québec?
Oui, eh bien, il y a des différentes visites qui sont faites par les inspecteurs en prévention incendie, l'équipe d'Alexandre Langlois.
Ouais.
Donc, ils sont allés en garderie, ils vont aussi en milieu de travail de certaines entreprises. Samedi qui s'en vient, on va être au match des remparts, à l'avant-match des remparts, le hall d'entrée. On va être là avec un véhicule du service incendie, possiblement notre mini-pompe. Alors, on va faire un kiosque de sensibilisation là-bas. On va être là de 14h à 16h pour ceux qui veulent nous rencontrer.
Ça a l'air que ta blonde y va, Yannick.
Ouais, c'est ça. Elle me dit, quoi, t'as des pompiers, tu me l'as pas dit?
et les éléments sur lesquels on aime toujours sensibiliser, oui, il y a des bonnes actions. Et pour les enfants, il y a les comportements sécuritaires à adopter qui sont super le fun, qui, eux, adorent ça. Mais l'avertisseur de fumée, là, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Et vraiment, l'équipement qui va faire la différence lors d'un incendie en milieu résidentiel. L'an passé, juste à Québec, on a eu deux, malheureusement, incendies mortels, deux incendies distincts. Dans les deux cas, dans les logements, il n'y avait pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Dans 90 % des incendies mortels en milieu résidentiel, les avertisseurs de fumée sont soit non fonctionnels ou manquants. Alors, c'est encore un élément de base qui, lors des incendies, va alerter les gens rapidement pour leur permettre d'évacuer là, en toute sécurité. Alors, c'est un équipement qui est très, très, très important, qui ne coûte pas cher, que lorsqu'il est bien installé, ne devrait pas déranger. Alors, ça demeure le nerf de la guerre pour nous et c'est une des raisons principales pour laquelle on est venu vous rencontrer aujourd'hui.
Monsieur Alexandre Lajoie, officier média, ainsi qu'Alexandre Langlois, qui est capitaine à la prévention des incendies. Merci beaucoup d'être passé. Bonne merci semaine de la prévention des incendies. On se reparle dans
le plaisir. On est correct ici? Ou...
Comment? Oh, oui, on est correct. Là. On
n'a pas de détecteur.
Ouais, on va s'en parler.
D'après moi, on a des petites choses à faire.
On vient.